Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Dominique Vallière et Yasmine Abdel-Fadel.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour Philippe Vincent.
Alors hier, Sonia Lebel, Mathieu Lacombe ont surpris certains en annonçant qu'ils allaient mettre de l'avant déjà des augmentations de salaire pour les éducatrices qualifiées et non qualifiées là, pour les CPE et les garderies subventionnées, alors que la grève se poursuit, que les négociations sont toujours en cours et semblent un peu branlées dans le manche. C'est pas mal inédit, là, Yasmine, ce qui a été annoncé hier par le gouvernement.
C'est inédit, mais c'est pas la première fois que le gouvernement fait ça. Puis on en a parlé pas hier. On dirait qu'ils font des petites jambettes aux syndicats pendant qu'ils négocient ou après avoir négocié avec eux. C'est une nouvelle manière de voir les relations de travail puis les négociations avec les syndicats. C'est habile, c'est intelligent parce que ça finalement diminue l'impact, diminue l'influence des syndicats pour directement avoir être en action auprès des travailleurs. Par contre, ça peut être un couteau à double tranchant et éventuellement, ça, ils pourraient pas faire ça tout le temps parce qu'il pourrait y avoir des attentes de tous les corps de peut-être tous les professionnels qui vont dire bah t'as été capable de faire pour les infirmières, t'as été capable de faire pour les responsables de services de garde, t'es capable de le faire pour nous maintenant tout de suite.
Mmh. En même temps, Dominique, qu'on parle de 12% d'augmentation pour les non qualifiés, pour ceux qui font les qualifiés mais qui font juste 32 heures, là, pas mal tout le réseau. Pour une éducatrice qui commence, 12% d'augmentation sur un 19$ de l'heure, ça se traduit par un 20$ de l'heure. Je regardais des emplois tantôt à 20$ de l'heure. Il y en a pas mal moins stressant là, que ces éducatrices qui ont été formées pourraient faire à ce prix-là. Là.
Absolument, mais il y a une constante depuis la création du DEC en petite enfance, Philippe Vincent, c'est que c'est le DEC le moins bien payé. Donc, quand tu sors du cégep avec ta technique, c'est la technique la moins bien payée au Québec. Alors ça, c'est comme ça depuis sa création. Puis évidemment que là, le gouvernement essaie d'opérer un rattrapage, sauf que tu peux pas rattraper tant d'années de conventions collectives qui étaient très minces, et tu peux pas rattraper tant d'années, tu sais. Quand le salaire de base a été placé par le gouvernement Bouchard, il y a eu un choix qui a été fait de les décaler par rapport aux profs. Et ça, jamais est-ce qu'elles les ont rattrapés, jamais est-ce qu'elles ont rattrapé les éducatrices en milieu scolaire. Puis c'est ça que le gouvernement, là, tente de régler, du moins en partie. Mais c'est vrai qu'on part de loin. Ce que les syndicats disent essentiellement, c'est bien beau 17% ou 12% pour celles qui font moins de 40 heures, mais c'est 12% ou 17% de pas grand-chose. Mm.
Mais il faut aussi, c'est important de dire que éventuellement, il y a aussi les responsables de services de garde en milieu familial qui vont lever la main et puis dire, là, vous allez négocier pour les éducatrices qui sont dans les CPE, qui sont dans... Puis vous reconnaissez leur travail, puis le ministre hier disait ce sont pas des gardiennes, ce sont des éducatrices, puis j'en sais quelque chose. Ben ce sont des éducatrices aussi, les responsables de services de garde en milieu familial, qui ont un statut spécial à mi-chemin hybride entre le travailleur autonome et le salarié. Et pour eux, ils ne sont pas payés à l'heure, c'est comme une subvention, mais une subvention que quand ils ramènent au nombre d'heures travaillées, que ce soit 10 heures par jour, on est très loin même du salaire que gagne une responsable de service de garde qui travaille en CPE. Donc, c'est une boîte de Pandore qu'on n'en a pas fini d'entendre parler. Puis le ministre va devoir ménager tout ce beau monde-là, tous ces publics, ces travailleurs qu'il a dans le ministère de la Famille, pour que ça soit équitable pour tout le monde, puis qu'on reconnaisse et qu'on valorise le travail d'éducatrice, peu importe dans quel milieu l'éducatrice travaille.
Et Dominique,
sur les RSG, tu me permettras, Philippe Vincent, la négociation, elle est terminée depuis un an. Les parents qui ont des enfants en service de garde en milieu familial le savent bien parce qu'il y a eu des grèves tournantes subventionnées. Il y a eu des grèves tournantes il y a un an et ça s'était conclu par une entente un petit peu au-dessus de 16%. Et on avait rajouté ensuite un autre espèce de 12-15% parce que de l'avis de tout le monde, dont du ministre, la convention ne permettait pas de freiner l'exode qu'on vit pour les responsables de services de garde depuis 2014. Et donc, au total, ce qui a été consenti aux responsables de services de garde, c'est autour du 30%. Donc là, évidemment que ça explique la réaction notamment syndicale hier, qui disait, là, vous nous donnez 17 %, c'est bien, mais c'est pas ça nos demandes, parce qu'elle, elle voit très bien, par ailleurs, c'est le même syndicat qui représente souvent et les responsables de services de garde en milieu familial et les éducatrices en CPE. Fait qu'elles savent bien qu'elles ont été capables d'en obtenir bien davantage pour les RSG qui partent plus loin. Yasmine a raison, mais ça explique peut-être en partie la réaction un peu virulente là, d'un des syndicats hier.
Mais Dominique, ça divise encore plus le gap, excusez-moi l'anglicisme, avec l'annonce d'hier, même le rattrapage qui a été tenté d'être fait avec les responsables de services de garde en milieu familial l'année dernière. Ben encore aujourd'hui, elles vont dire, vous voyez, encore une fois, on est le dindon de la farce. Encore une fois, même quand on fait un petit rattrapage, ben les autres avancent, puis nous, on continue d'être les perdantes.
Ouais, puis il y a l'association des garderies non subventionnées aussi qui se dit, hey, oh, nous, on a 70 000 enfants au Québec qui sont dans nos services. On craint un exode de nos éducatrices qualifiées parce que là, on sera pas capable de les payer autant que les CPE ou les milieux de garde subventionnés qui eux aussi disent, on pourrait aller en grève la semaine prochaine si jamais il y a rien pour les garderies en milieu non subventionné. Donc, il va falloir, Dominique, un moment donné, au ministère de la Famille, on décide de prendre le taureau par les cornes de ce milieu de l'éducation et qu'on fasse pas juste, pour utiliser un autre anglicisme, patcher les trous ici et là.
Absolument. Puis il y a un projet de loi qui va être déposé dans les prochaines semaines. Je pense qu'il va donner les couleurs de la vision que le gouvernement a pour le réseau des services de garde. Mais la GNSI, l'Association des garderies non subventionnées, eux, ce qu'ils demandent puis ce qu'ils sont en train d'obtenir, c'est de changer de statut. Donc, c'est d'être converti en garderie privée subventionnée, ce qui, pour eux, là, réglerait un paquet de problèmes, notamment au niveau des relations de travail puis au niveau de la rétention. Et ce qui serait aussi une bonne nouvelle pour les parents, parce que la différence entre une garderie privée subventionnée et non subventionnée, oui, t'as le tarif, mais t'as aussi les services qui sont offerts aux enfants. Si t'as un enfant qui a des besoins particuliers, que ce soit moteur ou autre, il y a des subventions qui sont disponibles pour adapter le milieu de garde, il y a des subventions qui sont disponibles pour que l'enfant ait un corridor de service. Alors, c'est un monde de différence.
Mais pourquoi ça se fait pas plus vite? Pourquoi c'est pas déjà fait, ça?
Ben, ça a commencé avec un projet pilote qui a eu deux phases, qui touchait 3500 places. Donc, 3500 sur 70 000, c'est pas la panacée, mais en même temps, faut bien commencer quelque part, parce que ça avait jamais été fait de la conversion. Ça avait jamais été fait. Il n'existait pas au ministère de la Famille là, un guide là, pour dire, bon, mais étape 1, tu fais ça, puis étape 2, tu fais ça. Et là, ce qui voulait être vu par le ministre, c'était la passerelle. Est-ce qu'on est capable de, dans nos règlements, dans nos statuts, est-ce que la loi actuelle nous le permet? Est-ce que le cadre administratif actuel nous permet de faire le switch entre un et l'autre, un statut et l'autre? Et si oui, ensuite, ben est-ce qu'on regarde pour faire passer ces garderies-là vers des CPE, donc administrées par les parents, au conseil d'administration, puis tout ça, ça rentre dans la vision du ministre qui a énoncé plusieurs fois d'avoir à terme un réseau à 100% subventionné, mais il y a tellement de problèmes que le ministre, il jongle avec 6 balles en même temps, puis des fois, les gens se disent, OK, ça devient difficile, seul l'est. Mais est-ce que ça veut dire que t'es ministre juste pour les journées où est-ce qu'il fait beau? Non, t'es ministre pour les jours de pluie aussi. Puis je pense qu'il essaie de ramener ça le plus possible.
Bon, Yasmine, parle-nous des bars, des restaurants qui vont pouvoir ouvrir le 1er novembre. C'est la date aussi à laquelle l'aide aux restaurants et aux bars va se terminer, là.
Merci à Enrique Iglesias et Ricky Martin qui ont démontré qu'on était capable de s'entasser plusieurs sans avoir de problème et de danser. Or là, on va aller dans les bars puis on va aller dans les restaurants. On va pas danser, mais on va être plusieurs à 1 mètre l'un de l'autre, d'une table à l'autre. Puis c'est une belle bouffée d'oxygène pour nos tenanciers de bars et nos propriétaires de restaurants qui, on va le dire franchement, en ont payé le prix de cette pandémie. Ils ont dû fermer, ils ont dû subir et faire subir finalement à leurs clients avec qui ils avaient des bonnes relations, des mesures difficiles. Ils ont dû jouer à la police. Ils continuent de jouer à la police avec le passeport vaccinal. Et là, enfin, on leur dit, ben regardez, pour le temps des fêtes, ça va pas être, ça devrait être plus beau. Ça devrait, on vous permet d'aller peut-être chercher le temps perdu, de récupérer le temps perdu. On augmente la capacité. Je pense que c'était la moindre des choses, là, compte tenu de toutes les dernières levées de restrictions qu'on a vues dans les dernières semaines.
Dominique, veux-tu me parler de Dominique Anglade? Je l'ai pas vu tweeter hier sur les CPE. Je l'ai pas vu tweeter sur le report de la date butoir pour la vaccination obligatoire dans le système de santé. Elle est où? Elle fait quoi?
Elle est en tournée, elle est sur la côte nord. Donc hier, elle était entre Baie-Comeau et cette île. Puis je sais que premièrement, quand il y a des relâches parlementaires, souvent les chefs partent en tournée. C'est vrai en ce moment pour Madame Anglade qui est sur la côte nord. C'est vrai pour Monsieur Saint-Pierre Plamondon qui est en Abitibi. Donc le label là, semaine de congé est pas exact là, dans le cas.
Semaine de voyage.
Pour les chefs, semaine de voyage, oui. Pour les chefs, pour leur équipe logistique de contenu qui doivent préparer ces tournées là. Puis c'est sûr que ça fait déphaser là quand il se passe un événement d'actualité comme mercredi avec Monsieur Dubé qui repousse d'un mois. Pendant ce temps-là, Madame Anglade, elle tweet sur les beautés de Baie-Comeau. Mais c'est qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit dans ces tournées-là. Évidemment, on est à un an des élections. Puis je suis pas mal sûr que l'agenda privé de Madame Anglade est au moins aussi plein que l'agenda public. C'est-à-dire que c'est le moment où est-ce qu'elle commence à aller solliciter des candidatures, où est-ce qu'elle est en train d'aller chauffer ses militants pour qu'ils soient prêts, notamment dans le financement, pour faire la prochaine campagne. Parce que en gros, les libéraux, en ce moment, ils ont une décision à prendre pour la prochaine campagne. Est-ce qu'on joue l'attaque et est-ce qu'on veut aller gagner donc de nombreux sièges ou est-ce qu'on joue à la défense? Le fait qu'elle soit présente partout au Québec, notamment sur la Côte-Nord, ça montre qu'elle abandonne pas des territoires. Tu sais, si elle passait tous ses jours et ses semaines dans le West Island, ça enverrait un autre message.
Yasmine.
Mais Dominique Anglade, elle a une qualité, puis personne peut le lui enlever. C'est la femme la plus tenace et déterminée que moi j'ai pu rencontrer dans ma vie. Cette femme, quand elle décide de mettre quelque chose dans sa tête, elle ne lâche aucun effort. Elle va faire, je le sais que Dominique Anglade, elle va faire le plus de comtés possible, le plus de régions rencontrées, le plus d'élus régionaux, le plus d'entrepreneurs régionaux. C'est sa nature comme personne. Est-ce que ça va être payant? Ça, c'est une autre chose. C'est pas elle qui va décider de ça. Ça va être les électeurs qui vont décider de ça. Mais Dominique Anglade, c'est le genre de femme qui va dire, moi, bookez-moi tous les week-ends, tous les jours fériés, toutes les vacances, parce que moi, je vais aller sur la route. Puis si c'est ça qu'il faut pour gagner les prochaines élections, je vais le faire. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas faire ça puis finalement négliger les débats nationaux sur la vaccination obligatoire, sur les CPE, sur tous ces sujets qui font l'actualité dans les derniers jours. Il faut qu'elle maintienne aussi une présence nationale sur les enjeux les plus chauds de l'heure.
Il faut que son équipe travaille là-dessus. Donc, Yasmine, Dominique, bonne fin de semaine.
À lundi.
Merci.